Bonjour à tous et à toutes, je suis Woody Woodruff de PBS et correspondant spécial de NewsHour, anciennement CNN. Je suis très honoré d'être là pour animer cette section qui est intitulée « Les femmes à l'avant-garde de la réponse au SIDA ». Parmi tous les messages faits dans cette conférence, le message qui est le plus important est le message que nous allons discuter dans l'année à venir, le rôle des femmes et des filles dans cette épidémie. Nous savons que dans tout le monde, plus de la moitié de ceux qui vivent avec le VIH sont des femmes. Si cette tendance actuelle continue, nous allons voir que les femmes vont être la majorité. Et ce qui est encore plus troublant, les jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans sont au moins 3 fois plus susceptibles de devenir infectées que les hommes. Pour le même groupe, même si l'épidémie devient un petit peu mieux, enfin s'améliore dans certaines régions du monde. C'est le visage du sida. Aujourd'hui, les femmes et les jeunes filles sont de plus en plus des victimes de façon troublante et complexe. Mais ce sont aussi les prestataires de soins qui traitent des patients VIH-sida. Nous avons vu les grands-mères se rassembler ici à Toronto. Et maintenant, c'est un nouvel appel pour les femmes. Comme Bill Gates l'a dit hier soir, nous devons remettre le pouvoir de la prévention du VIH dans les mains des femmes. Nous avons aujourd'hui pour discuter de cette question, c'est le rôle des femmes et des jeunes filles dans le VIH prévention et les défis auxquels nous devrons faire face. Et les femmes sont qualifiées de façon unique. À gauche, Melinda Gates, vous l'avez entendu hier soir, la coprésidente de la fondation Bill & Melinda Gates. À droite, Dr. Nathan Famdick, envoyé spécial des Nations Unies pour le VIH-Sida en Asie. C'est les médecins. Elle-même est conseillère spéciale au secrétaire général des Nations Unies. Juste à droite, Sheila Conchon, cofondateur de Black Entertainment Television, BE. Et elle travaille principalement sur le bien-être des jeunes filles, Sheila Johnson. Et enfin, Moussa Anyoko, qui est une activiste d'Afrique du Sud, femme d'affaires, qui est séropositif diagnostiqué il y a 15 ans, en 95. Elle a divulgué son statut publiquement. C'était une des premières femmes sud-africaine a déclaré son statut de séropositivité. Avant de commencer notre discussion, je vais vous dire que vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez des cartes. Prenez un morceau de papier, écrivez vos commentaires, veuillez vous mettre votre nom, le nom de la personne à qui vous voulez vous adresser. Nous allons prendre en charge ces questions et nous passons environ 20 minutes à répondre aux questions de l'auditoire. Sauf, veuillez nous laisser savoir ce que vous pensez. Dans la première question que je veux poser à nos experts, et qu'est-ce que vous avez vu ? Melinda, qu'est-ce que vous avez vu dans tes voyages dans le monde entier ? Quel est le visage de ces femmes et filles vivant avec le VIH-Sida? Donc c'est une question très importante dans notre combat pour les années à venir. La fondation a été créée sur la base que toutes les vies sont égales, et je suis complètement d'accord avec ça. Lorsqu'on commence à examiner La fondation a été créée sur l'hypothèse que toutes les femmes se créaient égales. Et je suis complètement d'accord. Si on commence à examiner une maladie comme le VIH-SIDA, et dans tous nos voyages en Afrique, en Inde, etc., on réalise très vite qu'il faut faire quelque chose pour les femmes avec cette maladie. Et une des choses les plus précoce. Nous avons visité une clinique au Botswana. Nous avons commencé à financer en 2000. Ils n'ont pas commencé à fonctionner en 2001. J'ai visité la clinique à Botswana et qui distribue des antirétroviraux. J'ai rencontré une femme. Quand j'ai rencontré, elle prenait des antirétroviraux de plus de 5 mois et son compte était 24. Et je n'avais jamais vu de compte de CD4 comme ça et était toujours vivant. Et ça lui a pris beaucoup de courage pour parler. Elle était rejetée par sa famille. Elle ne pouvait pas être ainsi dans une clinique avant de trouver quelqu'un qui pouvait s'assurer qu'elle continue à prendre le traitement. C'était une femme très belle qui allait continuer à vivre et à avoir une famille comme nous le faisons tous. Je pense que c'est une des histoires qui m'a vraiment touché à propos du VIH SIDA. J'en ai plein d'autres, mais c'est une des premières qui m'a vraiment frappé. Très souvent, nous regardons, nous pensons au continent africain, mais vous avez vu le SIDA dans d'autres ailleurs. Et bien sûr, les femmes affectées par la maladie. L'Inde est un autre pays où Bill et moi avons voyagé. C'est un peu... On l'a vu dans les taudis, le combat des femmes, la stigmatisation gigantesque, on la voit en Inde. Parfois, ces femmes sont rejetées par leur belle-mère et il n'y a seulement que 8% des femmes qui savent ce qu'est le VIH-SIDA. Les hommes vont au travail et ils ramènent quelque chose dans le village, cette maladie qui les fait maigrir. Donc, docteur Nassis, vous voyagez comme conseiller des Nations Unies. Votre travail principal est sur le SIDA en Asie. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai été engagé sur l'égalité des sexes au début de ma nomination comme envoyé spécial et bien sûr... J'ai d'abord travaillé dans les grands pays, en Inde, en Chine, mais dans d'autres aussi. En Inde, j'ai été frappé parce qu'il y avait de plus en plus de jeunes femmes mariées qui étaient diagnostiquées séropositives et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et dans certains États, les chefs d'État me demandent qu'est-ce que nous allons faire pour les femmes de notre État, ces filles. Leur mariage est arrangé par les parents, prévu. Donc ils doivent se marier avec la personne sélectionnée. Ce sont des jolies femmes. Elles ne connaissent rien de la sexualité, des questions de reproduction, des questions sexuelles. Elles font ce que leur mari leur dit. Ça fait partie de leur travail. Et lorsqu'ils tombent enceintes, deviennent enceintes, elles vont dans une clinique, elles sont diagnostiquées séropositives. Et c'est souvent le mari et la famille du mari, et ensuite le mari et la famille du mari blâment la femme pour cette infection. Et dans certains cas, et en Inde et dans d'autres pays, la femme, l'épouse, est s'adjugettie au jet de pierre, rejetée. Ces femmes sont rejetées totalement, et même les études. Et malgré tout, les études en Inde, dans notre pays, Bangladesh, Cambodge, montrent que 95% des femmes ont seulement un partenaire, le mari. Donc elles sont infectées par leur mari, pas à cause de leur comportement. Et elles sont ensuite punies à cause de cette fidélité, c'est si injuste. Et j'ai commencé donc cette campagne pour promouvoir l'égalité des sexes et pour traiter les vulnérabilités grandissantes des jeunes femmes et des femmes. Au fur et à mesure de mes voyages, j'ai découvert que la situation était très similaire, mais se manifestait de façon différente. En Cambodge, il y a tellement de trafic des jeunes femmes des zones rurales vers les zones urbaines. J'étais dans les anciennes républiques soviétiques. Donc je veux qu'il... J'ai commencé à parler du fait que les femmes étaient de plus en plus vulnérables, parce qu'elles font bien sûr partie de la force de travail migrante. Elles ne savent même pas, elles ne connaissent rien de la maladie, elles ne savent même pas ce qui les frappe, et elles ramènent cette maladie dans les villages, elles ne savent pas comment prendre soin d'elles, mais elles sont exposées à cette infection. Et donc, à mon opinion, et à l'opinion de la coalition mondiale, cette inégalité est le moteur principal de cette infection. Donc il est si facile, il est très facile pour nous, je suis américaine bien sûr, je regarde ici aux États-Unis, des États-Unis, je regarde le reste du monde, il y a des inégalités ici, là, mais Sheila Johnson, en tant qu'américaine, vous voyez dans la société américaine, société occidentale, certaines des inégalités. Bien sûr, il n'y a aucun doute que je travaille avec de jeunes enfants. Ils ont toujours été à l'avant-garde de mon agenda depuis plus de 25 ans. Et ce que je vois aux États-Unis, ce sont des jeunes filles se voient chaque jour dans les médias, sont remises en question à cause de leur sexualité. Elles doivent devenir sexuelles très tôt dans leur vie. Et c'est très détrimental pour leur, c'est très mauvais pour le processus de croissance. Leur amour propre est très faible. Elles se ressentent. Elles veulent obtenir du pouvoir par leur sexualité, avoir des relations avec des hommes. Ce qui est troublant, c'est que nous devons prendre en charge ces jeunes filles. Nous devons les éduquer. Elles doivent comprendre que le fait d'être sexuel, ce n'est pas bon pour elles. Elles doivent prendre en charge leur corps, ce que je veux obtenir leur attention, comment elles sont réduites à des rôles sexuels dans les médias. Je veux être très attentif dans mon discours, parce que bien sûr nous ne vont pas les rejeter, mais une partie de mon travail est d'utiliser cet outil. J'amène toute cette information sur le cours, sur le terrain de basketball, parce que je m'occupe aussi d'une équipe de basketball. Je veux qu'elles deviennent des modèles. Et la façon dont je travaille, c'est avec la musique hip-hop. Nous amenons des experts pour qu'ils parlent à ces jeunes filles. Elles sont également testées pour découvrir leur statut positif ou négatif. Mais je pense que ce qui est vraiment... ce problème doit être traité. Comment les médias doivent travailler pour changer l'état d'esprit de ces jeunes filles et comment elles se perçoivent elles-mêmes. Les médias ont un rôle très important à jouer et sont responsables. Yanukovych a été diagnostiqué il y a 11 ans ou 12 ans. Qu'est-ce que vous pourrez dire dans votre vie avec le VIH? Comment est-ce que les femmes sont perçues comme séropositif, comme patiente vivant avec le sida? Quels sont les changements que vous avez observés? Laissez-moi dire, vous remercier d'abord pour me donner l'occasion de partager mes pensées à ce niveau. Des choses importantes à dire est que je ne suis pas fier d'être séropositive comme femme, mais je n'en ai pas honte. Mais je pense qu'il est temps pour les gouvernements, les grandes sociétés et tout le reste du monde de mettre l'argent sur la table et de passer à l'acte, d'habiliter les femmes parce que nous sommes la colonne vertébrale de chaque les nations et que sans nous, il n'y a plus d'existence, que donc nous devons être pris au sérieux. Merci. Le fait Quand j'ai découvert mon statut de séropositif en 1994, j'avais 24 ans. Maintenant, j'ai 34 ans. Lorsque j'étais diagnostiqué, on m'a dit que je n'avais que quelques mois à vivre. En tant que mort, que mère, je devais retourner à la maison et dire à mes enfants que j'allais mourir. On m'a aussi dit de rentrer à la maison et dire au reste de ma famille et parler de ma situation au reste de ma famille, y compris ma mère. Ma mère de 72 ans, elle ne savait pas comment faire face à cette maladie. Au cours, au fil des ans, je vois toujours les mêmes statistiques, je vois les mêmes messages. Les femmes sont les plus vulnérables, mais toutes les interventions, elles sont toujours. Mais toutes les interventions sont ciblées pour les hommes. Si je décide de votre relation sexuelle avec un homme, je suis à sa merci pour savoir s'il est éduqué. Et pour savoir s'il va me passer une autre souche de VIH, je n'ai pas le choix. Ça, c'est l'image actuelle des femmes qui vivent avec le VIH soudain. Qu'est-ce qui peut être fait? Je veux demander à tout le monde et poser la même question à tout le monde. Je pense que la chose la plus importante est s'assurer que des interventions significatives permettent d'habiliter les femmes. Ces interventions, le financement, nous devons nous assurer que l'argent est mis sur la table et que l'argent atteint est destiné aux femmes, et pour que les femmes soient impliquées dans la planification de la coordination et toutes les activités. Ces décisions doivent être faites par les femmes. Je ne veux pas rejeter les hommes, mais nous devons être à l'avant-garde. Nous devons être habilités pour conduire ce combat et être en contrôle de notre situation. Sinon, nous sommes celles qui souffrons et nous sommes les victimes et les interventions doivent être plus ciblées sur les femmes. Veuillez l'applaudir. Melinda Gates, je suis certaine que tu es d'accord avec cette philosophie. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Votre mari en a parlé hier soir. Qu'est-ce que ça signifie dans votre perspective? Oui, bien sûr, nous devons mettre le pouvoir dans les mains des femmes. Et comment le faire? Aujourd'hui, bien sûr, le condom est quelque chose que les femmes peuvent négocier. Il faut des outils de prévention. On peut vraiment changer le visage de cette infection dont les microbicides ou les médicaments de prévention orale. Un médicament peut prendre oralement sans que son partenaire le sache. Bon, quels sont les obstacles maintenant? J'aimerais pouvoir dire qu'il n'y a que l'argent. Et ce serait facile s'il fallait juste simplement d'argent. Il faut des tests. Nous en avons 16 microbicides, les 5 qui vont arriver à la phase 2, mais nous devons des microbicides plus puissants et un bon nombre d'essais pour les microbicides et les médicaments par voie orale qui sont encore plus prometteurs. Les essais ont été arrêtés. Donc il faut plus de sites de tests, plus de gens impliqués, plus de participants aux tests, et nous devons des activistes être des deux côtés de l'équation. Oui, nous devons nous assurer que les tests soient faits de façon éthique et en respectant les protocoles, mais nous devons aussi des activistes qui disent que ça doit être fait. Ces tests doivent aller de l'avant, sinon nous n'aurons jamais les outils. Pour l'instant, il n'y en a aucun médicament oral qui est dans les sites. Pourquoi est-ce que les gens ont arrêté? Je pense que les tests ont arrêté. Notre fondation, les activistes, les communautés, nous devons avoir de meilleures pratiques sur la façon, sur le fonctionnement des essais. Il faut s'organiser, il faut impliquer les communautés, plus de femmes, de façon à ce qu'elles fassent la promotion des tests dans les communautés. Nous voulons participer parce que non seulement ça va nous aider, mais aussi d'autres personnes du monde entier. Et lorsqu'il y a des gens qui arrivent avec des critiques, oui, chaque personne dans cet essai doit avoir des médicaments antirétroviraux. Ce n'est pas. Mais l'organisateur du test ne peut pas garantir cela. Si le gouvernement ne prend pas en charge, cette organisation ne peut pas rester pour le reste du test en distribuant des antirétroviraux. Il faut s'assurer que le gouvernement soit impliqué. C'est où il y a de nombreux problèmes par rapport à la conception des tests pour que nous soyons tous sur la même voie. Pour moi, l'autre défi est que oui, nous parlons de microbicides. C'est pour les femmes, pour une femme qui n'est pas encore infectée par le VIH, et nous parlons des antirétroviraux, c'est pour des gens qui sont déjà malades. Qu'est-ce que nous faisons avec une femme comme moi qui est toujours saine, productive, mais qui peut continuer à contribuer au développement? Vous dites que vous êtes un cas spécial, tu as des talents, tu es à l'avant-garde des efforts de sensibilisation par rapport au sida. Oui, j'ai eu l'occasion d'apprendre un petit peu sur le VIH et de comprendre, et j'ai pu m'exprimer. Mais ce que je dis, c'est que la phase de silence qui vivent toujours avec le VIH et qui n'ont pas accès aux antirétroviraux, comment est-ce que nous pouvons nous assurer que l'on peut prolonger la vie de ces gens pour qu'elles puissent prendre soin d'elles-mêmes et d'autres? Je m'inquiète plus des exemples en Asie, des 95% qui ne sont pas infectés. Et en apprenant de l'expérience des jeunes femmes qui ont été infectées, pas à cause de leur propre comportement, mais à cause du comportement de leur partenaire, comment est-ce que nous pouvons trouver des moyens pour les protéger? Tout d'abord, il faut les habiliter avec des connaissances, de la formation, et dans toutes les sociétés, les femmes, elles doivent rester un peu stupides par rapport à la sexualité. Elles se marient donc sans rien savoir. Elles ne connaissent rien. D'une façon, nous devons leur donner des connaissances. Et nous devons les habiliter pour qu'elles aient plus d'autonomie et de contrôle dans leurs relations. Relations maritales, relations sexuelles, ça c'est beaucoup plus difficile. Parce que là, on doit faire face aux attitudes culturelles et sociales dans toutes les sociétés. Et en fait, le mariage est une licence de faire ce qu'on veut avec son épouse. Il y a, dans de nombreux pays, il y a encore des lois. Si une femme refuse les droits conjugaux, c'est punissable, c'est condamnable. C'est une licence au viol. Comment est-ce qu'on peut changer ces attitudes? C'est un des problèmes les plus difficiles dans toute cette attitude socioculturelle, dans cet état d'esprit. Vous le savez, les décisionnaires ont beaucoup plus peur des femmes prenant contrôle de leur sexualité que de d'autres choses. Ils pensent que si les femmes prennent contrôle et leur autonomie pour prendre des décisions qui les concernent, ils pensent que la société va s'écrouler. Nous continuons à dire que les femmes sont vraiment l'ingrédient de cohésion des familles. Elles sont des contributrices égales dans la société, mais ce n'est pas reconnu. Donc c'est une inhibition gigantesque. Ça augmente la vulnérabilité des femmes, ça donne bien sûr de l'autorité aux hommes par rapport à la sexualité, la vie reproductive des femmes. Donc il faut que les femmes puissent négocier et insister que leur partenaire soit testé ou qu'ils utilisent des condoms. Ils ne peuvent pas le faire.
Et dans plusieurs parties de l'Afrique, ils ne peuvent pas exiger du mari qu'il porte un condom. Ils ne sont pas habitués. Elles ont passé par des lavages de cerveau. Elles n'ont pas le pouvoir économique non plus. et ils n'ont pas l'indépendance politique, mais encore plus, encore en-dessus de tout ça. Les gens qui font les politiques doivent traiter de l'épidémie du sida, et qu'elles vont avoir le pouvoir de traiter du sida si elles donnent le pouvoir aux femmes. Mais ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas le faire sans changer leur attitude sociale et changer leurs comportements sociaux. Vous dire que les choses sont liées les unes avec les autres, d'essayer de faire quelque chose avec des femmes de sida, c'est inextricable avec les questions sociales et de donner le pouvoir aux femmes. Je ne veux pas perdre de vue ici le point qui vient d'être émis par les femmes qui vivent avec le sida. Mais je crois que votre focalisation de la prévention du sida et de la séropositivité vient de deux questions qui sont très bien connectées ensemble. Mais je voudrais vous demander, vous êtes là depuis longtemps, vous avez vu comment les politiques fonctionnent aux États-Unis, vous avez voyagé partout dans le monde. Lorsque vous entendez le Dr Sada qui dit que les femmes doivent faire face à ces barrières incroyables, qu'est-ce que vous dites pour dire à cet auditoire, qu'est-ce que vous pouvez régler avec ça? Je crois que la plupart, toutes d'entre nous, on doit traiter de ce problème de différentes fois. En tout premier lieu, il y a l'éducation. Beaucoup d'entre nous sont des femmes qui forment d'autres gens. Nous sommes des gens qui fournissons la nourriture intellectuelle à d'autres gens. Nous qui enseignons aux jeunes gens ce qui se produit vraiment. Je sais qu'au milieu, aux États-Unis, le sida a été à l'avant-plan. Ensuite, c'est disparu. Et maintenant, on n'en parle même plus. Et si vous regardez les commerciaux qui passent à la télévision maintenant, partout, oui, on parle évidemment des virus qui sont là, qui redeviennent en première ligne. Cela met sur l'arrière, si vous voulez, éloigne le sida de l'importance qu'il avait. Nous devons commencer à parler ouvertement de cette épidémie. C'est pas quelque chose qui est en train de disparaître. À Washington, dans la région métropolitaine où je suis, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, je m'occupe de ça, nous avons une jeune femme sur 10 qui est séropositive. Nous avons le plus grand taux d'infection chez nos jeunes gens. Et je crois que c'est le temps maintenant d'en parler. Et je crois que ces jeunes femmes ont besoin de prendre contrôle d'elles-mêmes, de leur propre corps. Elles doivent prendre la responsabilité de leur action. Je saute évidemment sur le dos des médias toujours, parce qu'elles suivent les médias à tous les jours, ces jeunes femmes. Toutes les 3 minutes, ces vidéos qui sortent à tous les jours, elles les voient et elles se personnalisent comme étant des objets pour le sexe. Et tout ce que je dis ici, nous devons commencer à parler ouvertement. Qu'est-ce que c'est qui se produit maintenant? Où est-ce que nous en allons maintenant? Qu'est-ce que c'est? Par où passons-nous? Pourquoi cela continue-t-il? Nous devons commencer à parler avec nos jeunes gens. Ce sont nos jeunes filles. C'est la seule façon que nous pouvons mettre un arrêt à ça. L'autre chose, c'est que les politiciens qui sont là, nous devons parler avec les membres de nos sénateurs, nos membres du Congrès. Nous devons leur dire ce qui se produit. Ils sont disconnectés là-bas. Il y a vraiment une disconnect. Ils ne sont pas connectés. Et nous devons donner le pouvoir à toutes ces femmes, comme vous dans l'auditoire. Nous avons le pouvoir de nous prendre le contrôle. Nous devons nous-mêmes prendre le pouvoir en main. Nous devons mettre la pression sur les gens, nos législateurs, vraiment, pour changer la loi, pour prendre la responsabilité de nos vies. Nous devons reprendre en main nos vies. Les hommes ne peuvent plus nous contrôler. Sheila, je crois que sur le point des médias, il ne pourrait pas avoir un point, évidemment, qui est mieux compris que quelqu'un dans les médias, que ce que je vois, moi. Les gens intéressés dans le sida, ce qu'on voit maintenant dans le passé, maintenant, on soulève, on parle du sida, et puis les gens deviennent les yeux vitreux, ils ne sont pas intéressés. Et je crois que ce que Melinda Gates doit faire avec ce stigma qui est associé avec le sida, vous y avez touché hier soir, mais je voulais vous demander encore une fois aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, comment pouvons-nous nous approprier cette question ce problème, ce stigmate qui est là. Parce que les gens ne veulent même pas y penser. Non seulement ne veulent pas en parler, elles veulent pas, veulent même pas y penser, ce sida. Je crois que ça devrait commencer, évidemment, sur, au premier plan dans les pays. Je crois qu'en 2001, je crois qu'on donnait les antirétrovirales, les antirétroviraux. Il y a une douzaine de cliniques aux États-Unis. Par surprise, on croirait qu'il y aurait de longues lignes de gens. En Botswana, il y a tellement de gens qui sont affectés. On a cru qu'il y aurait des longues lignes de gens qui voudraient avoir les antirétrovirus, mais ils ne le font pas. Nous avons été surpris que les gens n'exigent pas. Pourquoi ne puis-je pas recevoir ces antirétroviraux? Et il y a beaucoup plus de gens qui disent je suis séropositif dans mon pays, je suis en bonne santé, je suis sur les antirétroviraux. Et je crois que les gens vont commencer à sortir de ce stigma. Nous commençons juste à le voir maintenant, parce que ça fait pas longtemps qu'on a oublié ça. Maintenant que les programmes commencent à être lancés, maintenant que je vais en Afrique, je vois beaucoup plus de gens qui commencent à en parler. Je vois beaucoup plus d'espoir. L'Afrique est saturée de messages, pas qu'ils sachent pas. Les gens savent, je sais, je connais le VIH, mais pourquoi est-ce que je pourrais, mais si je me faisais tester, puis il s'avérait que je suis séropositive, je vais être mis de côté, je vais être ostracisé dans ma propre société. Mais si on pouvait dire, écoute, je connais une sœur, un frère, et puis dit, écoute, si tu dois aller te faire vérifier, tester, et puis il y a de l'espoir pour toi, si même si tu te réveilles comme étant séropositive. Et je crois que ceci sera une façon de se libérer du stigma. Et Moussa, aujourd'hui en Afrique du Sud, la partie du monde que tu connais mieux, qu'est-ce que c'est que ça veut dire pour une femme qui dit, je suis séropositive? Qu'est-ce que c'est que, à quoi fait face une jeune femme? Vous prenez le risque dans votre vie. Et on sait qu'au coup de la Munich, ça n'a pas changé beaucoup. Et si ça a changé, on n'aurait plus de gens qui en parleraient et qui diraient, je suis séropositive ou séropositif. Selon moi, en Afrique du Sud, j'ai été mise à la porte, on m'a demandé de ne plus participer dans les activités de ma religion et de mon église, parce que j'avais péché aux yeux de Dieu. Alors, je ne pouvais plus être activement les religions ne peuvent pas s'occuper de leurs membres. Même à la télévision, il y a une nouvelle église, et c'est toujours de recevoir de l'argent des gens. Alors, mais en ces temps de livraison, je crois que les églises, c'est vraiment les hypocrites dans cette question du sida. Ce sont les églises doivent commencer, les religions doivent commencer à sauver des vies. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire sur ça ici? Je crois que la première question que Mélissa parlait, je parlais du fait que seulement 10% des femmes qui ont besoin de programmes de prévention pour ne pas le donner à leurs enfants. C'est scandaleux ce qui se produit actuellement. Je lisais des articles et des recherches dans les pays sud-africains et beaucoup de femmes qui sont éligibles pour le programme de transmission de la mère aux enfants. Si on les teste et s'avère séropositif, elles ne veulent pas leur médicament parce qu'à ce moment-là, leur statut serait connu et elles seraient mises de côté, elles seraient stigmatisées dans leur société. Alors, je crois que si vous voulez que le sida, et c'est un de mes messages aux pays de l'Asie, que vous regardiez aux pays développés, les pays de l'Ouest, les gens avec le sida ont une vie normale, ont une espérance de vie normale. Évidemment, ils ne crient pas sur les toits, mais c'est accepté dans notre société. Alors, le stigma et la discrimination n'existent pas en site de travail, ce sera à l'encontre de la loi. Mais ça se produit pas dans nos sociétés. Et les femmes sont stigmatisées par ça. Si vous déclarez que vous êtes séropositive, on ne vous donnerait pas la permission d'avoir une vie normale. La première chose, c'est d'enlever le stigma et la discrimination et de permettre à les personnes de se développer, de contribuer. Parce que tous les gens qui sont séropositives peuvent contribuer à avoir une vie qui est positive. Je crois que c'est quelque chose. Et c'est tellement connecté. Toutes les choses sont tellement interconnectées. On commence à recevoir des questions. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont la même question. La première, qui a été écrite par Dr. Myriam Shamanesh, je m'excuse si je ne prononce pas votre nom, du Royaume-Uni et de l'Inde. Je sais que lorsqu'on cible les travailleuses du sexe et leur travail, seulement une fraction de ces femmes-là peuvent avoir accès à ces services habituellement parce qu'elles sont cachées, elles sont illégales ou sont dispersées partout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça mondialement? Sheila Johnson, ta perspective, et ensuite Melinda. La seule expérience que j'ai eue sur ça, même malgré que j'ai été impliqué sur la question du trafic des jeunes femmes pour travailler pour le travail du sexe, et c'est un problème partout dans le monde. C'est une question compliquée, difficile. Ce que nous avons fait, en fait, nous avons commencé à parler avec les gens qui font appliquer la loi, la police, pour essayer de trouver les gens qui sont responsables de ça. Et une fois que nous avons réussi à le faire, nous avons réussi à changer les lois en Afrique du Sud, et ensuite nous sommes passés, encore une fois, d'éduquer, de former ces trafiquants sur la responsabilité de ce qu'ils faisaient. Nous avons réussi à trouver ces enfants-là. Nous avons réussi à faire du dépistage. Nous avons fait du debriefing. Mais on ne peut pas arriver aux gens qui eux-mêmes sont les gens qui enlèvent ces jeunes gens pour faire cesser le trafic qu'ils font du commerce, du sexe. Je ne sais pas quoi répondre de plus. Pour ce qui a trait des travailleuses du sexe, nous devons travailler avec elles. Et un des plus gros problèmes, la plupart des pays sont comme ça. Ils disent, hop, ça n'existe pas chez nous. Non, c'est un groupe qui fait partie de notre société, qui existe, qui fait partie de la fabrique de la société. Si on ne reconnaît pas ça, évidemment, on ne réussira pas à régler le problème. Si on ne reconnaît pas que le problème existe, on ne réussira pas du tout à le régler. Une des choses que j'ai trouvées, et le succès qui se produit en Inde, un des plus grands problèmes qui réussit, un programme de 200 millions qui s'appelle l'appel à l'action en Inde. Alors, nous étions sur les lignes où les camionnages arrivaient, où le sida est transmis, où les travailleuses de sexe et les camionneurs travaillent. Ce que nous avons trouvé, c'est que ce n'était pas simplement de nous assurer qu'elles avaient des condoms et des messages de prévention, c'était de donner aux travailleuses un endroit sécuritaire où venir et d'en parler de leurs problèmes. Elles font face à tellement de problèmes, même avec leur famille, avec des relations normales et ensuite avec les clients qu'elles ont. Alors, il doit y avoir des endroits où elles peuvent venir pour parler de vraiment ce qui fonctionne. Comment peut-on négocier l'utilisation des condoms? Comment pouvez-vous être sécurisé dans ce que vous faites? Mais il doit y avoir des façons qu'elles se rencontrent ensemble. C'est dans un pays où la plupart de la prostitution est illégale et cela a des répercussions. Maintenant, une question qui est après rentrer à celle-ci, Dr. Weinberg, sur la question des travailleuses du sexe, quel sort de travail pourrait-elle faire avec 45% de non-emploi en Afrique du Sud, de chômage en Afrique du Sud? C'est un gros problème. La seule chose que je pourrais dire, c'est la raison pour laquelle les femmes font le travail du sexe. C'est pas comme... Elles vont et viennent parce qu'elles ont besoin de remplir ces besoins-là. La chose qui était intéressante pour moi en Inde, pour parler des femmes qui étaient dans le commerce, Leur espérance qu'ils ont pour les enfants sont absolument identiques à toutes les gens, toutes les personnes qui sont ici ou dans l'auditoire. Souvent, elles font ce travail-là, elles parlent. Je prodigue par mon travail que je fais, je donne la formation universitaire à mon fils ou à ma fille, je permets d'aller à l'école. Mais c'est un rehaussement de leur famille, c'est la seule façon qu'elles ont de le faire. Dans le continent sud-africain, avec les travailleuses du sexe et aussi les femmes qui prennent d'autres alternatives pour ce qui a trait de travail, je crois que cela amène l'effet qu'il y a un grand écart entre les hommes et les femmes et les occasions qui sont disponibles aux femmes pour ce qui a trait de l'éducation, premièrement pour ce qui a trait du développement des habiletés. J'ai utilisé quoi que ce soit, quels que soient les moyens que j'ai qui m'est disponible pour que ma famille continue. C'est un défi pour les gouvernements qui doivent dire, nous devons nous assurer, comme gouvernement, que nous remplissons cet écart pour la formation et aussi l'éducation pour les femmes, spécialement les jeunes femmes, afin qu'elles ne tombent pas, évidemment, encore une fois, dans le même piège. Et comment pouvons-nous montrer aux femmes de se sentir à l'aise? Parce que c'est tellement difficile d'être une femme. Pourquoi c'est si difficile actuellement d'être une femme? Il n'y a pas simplement des femmes. On pourrait être heureuse aussi comme femme, vivre notre vie, être heureuse comme femme. Qu'est-ce que ce serait? J'ai dit, vu simplement les programmes qui ont réussi concernant pour les travailleuses du siècle, le programme en Thaïlande, où 100% de l'utilisation des condoms pour les travailleuses du sexe a été la plus grande raison de la réduction de la séropositivité. De la séropositivité, 100% d'utilisation des condoms pour les travailleuses du sexe, le commerce du sexe. Il insiste que le client doit utiliser aussi un condom. Il peut être évidemment l'objet de prison par la loi. Et on encourage les programmes aux travailleuses du sexe. C'est qu'on veut sortir les femmes de ce travail-là. Et ça donne la puissance à ces personnes. Ça donne les moyens à ces femmes-là de être syndiquées, où elles peuvent éduquer d'autres femmes, comment exiger leurs droits qu'elles ont. En Inde, où ça n'a pas été les travailleurs du sexe n'ont pas été décriminalisés. C'est un travail à faire et les groupes d'avocats ont fait des suggestions à savoir comment la loi devait être légiférée de nouveau pour protéger les travailleuses du commerce du sexe, pour leur donner des droits. En Chine, où encore les travailleurs du sexe sont illégales de par la loi, on voulait faire décriminaliser ça, non pas changer la loi, mais décriminaliser vis-à-vis de ces femmes-là. Elles ont en fait réglé aussi le fait que si une travailleuse du sexe, on lui enlève son droit de forcer un condom au partenaire, pourrait être mis. Maintenant, pour revenir au point de Moussa, pourquoi est-ce que les femmes ne pourraient pas être des femmes et avoir le droit de vivre leur vie? Les femmes vivent tellement de manque actuellement dans toutes nos sociétés. Elles ne sont pas, n'ont pas de pouvoir économique, souvent de fois, n'ont pas les formations, pas l'accès à toutes sortes de choses, la terre, pouvoir économique. Elles vivent avec tous ces désavantages-là. Et ensuite, elles attrapent, elles deviennent séropositives et on les ostracise. Alors, elles tombent elles-mêmes sans aucun moyen de s'occuper d'elles-mêmes. Et ces choses dont elles souffrent deviennent encore plus grandes. Et coûtent un prix affreux dans leur vie. Je crois que pour les organisations de femmes, c'est le temps de prendre leurs responsabilités pour montrer aux femmes qui vivent avec le sida de contribuer et de vivre une vie complète. Toutes ces choses-là doivent faire partie du rôle central du mouvement militant des femmes. Sheila Johnson, vous disiez un peu plus tôt, que c'est la politique en général qui fait ça, évidemment. C'est les politiques, et je crois que les femmes doivent comprendre qu'elles doivent s'appuyer les unes les autres, s'appuyer. On dit qu'on s'en occupe, mais lorsque ça arrive vraiment, s'appuyer les unes les autres, on en arrive devant la politique, on doit s'assurer que les politiciens, que ce soit hommes, que ce soit femmes, que vraiment ils veulent se battre pour nos droits. On ne peut pas voir une femme qui est là, mais cette femme peut-être n'est pas pour nous. Il est important de cette façon-là, évidemment. C'est important de dire ça. Je ne peux pas imaginer vous dire combien de fois nous sommes arrivés devant une situation où nous devons absolument que nos droits, qu'on se batte pour nos droits. Et nous avons perdu à droite et à gauche. Nous avons perdu notre voix. Melinda Gates, une raison. It's Melinda Gates, c'est son premier nom. De Sarah. Elle est du Botswana et du Royaume-Uni. Le prospect des microbicides est vraiment formidable. Je suis d'accord que donner le pouvoir entre les mains des femmes est une étape vers l'avant. Comment pouvons-nous donner cet avantage aux femmes sans leur donner encore un fardeau de responsabilité? Je crois Je crois que si j'étais ça, je voudrais avoir le pouvoir entre mes mains à moi. Je reviens encore à l'exemple. J'ai rencontré tellement de femmes, spécialement dans l'Inde rurale. Oui, nous vivons dans une... Mon mari contrôle l'argent de la famille. Il est dans le champ aujourd'hui. Ils m'ont trouvé une façon. De cacher une coupe de roupies, la femme. Ils vont aller chercher, lorsque le moment arrivera, évidemment, de donner naissance à un bébé, elles auront un rasoir propre, elles auront tout simplement tout ce qu'il faut pour couper le cordon ombilical. Alors, c'est la situation dans laquelle elles étaient partout dans le monde. Et je crois que les droits sexuels, la reproductivité, je crois que vous devez leur donner les outils à eux. Oui, si ça leur donne un fardeau plus lourd sur les épaules, ce serait beaucoup mieux que ce qu'elles, le manque de moyens qu'elles ont aujourd'hui. D'une façon, ce que vous dites, c'est une bonne chose, que les femmes sont prêtes à prendre plus de responsabilités. Oui, on est mis dans cette situation, là, d'une façon ou de l'autre. On ne peut pas. On n'a pas d'autre choix. S'il y a au moins une chose, qui me permet de prendre cette décision-là, pourquoi pas? Mais cela ne veut pas dire que les hommes nous donnent la liberté d'être heureuses. Les hommes nous donnent ça maintenant. On peut continuer notre vie librement. Les hommes doivent prendre leur responsabilité de protéger leur femme et aussi de protéger leur famille. C'est aussi la responsabilité des hommes. Je crois qu'un autre point que j'aimerais aussi, que nous avons traité plus tôt, on doit permettre aux femmes une façon de se sortir de là. Oui, on a besoin de ces outils-là. Mais une des choses il doit y avoir des programmes qui sortent les femmes de la pauvreté, qui sortent les femmes du commerce et du sexe, qui leur permet pas simplement de leur prêter de l'argent, mais leur permettre de sauver de l'argent aussi, d'épargner de l'argent aussi. Lorsque leur mari mourra, que ce soit le beau-frère qui vienne, qui prenne tout l'argent qu'elles ont réussi à mettre de côté, de permettre des choses comme l'eau propre, que les femmes qui vont chercher de l'eau propre, qui dépensent 5 heures par jour à aller chercher de l'eau propre, on devrait leur donner d'autres moyens de vivre leur vie. C'est vraiment ce que je voulais dire. Je reviens de mon voyage en Guatemala pour une campagne de centraide. Et une des choses qu'on nous a dit de faire, c'est de donner le pouvoir aux femmes, de leur enseigner comment devenir des entrepreneurs selon leurs propres droits, de leur enseigner comment regarder, comment est-ce qu'elles pourraient redonner à la société, comment elles pourraient construire une entreprise. C'est si important que les femmes comprennent comment s'occuper d'elles-mêmes. Et je crois que cela est si important. Si elles apprennent à s'occuper d'elles-mêmes, si leur mari s'en va ou meurt, elles pourront s'occuper, ces femmes-là, de leur famille. Et cela mettra un terme à ce cercle de pauvreté. Et je crois que c'est très important, ça. Moussa, vous avez une question pour toi, d'un homme du Kenya, je crois, James Oden. Le fardeau d'appuyer les gens qui vivent avec sida et la séropositivité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour appuyer ces femmes-là? Je crois qu'une des premières choses pour moi serait, lorsqu'on parle de donner le pouvoir aux femmes, lorsqu'on parle de projets, de problèmes qui arrivent en Afrique, le problème est partout dans le monde, c'est que l'argent que vous investissez est très important. On l'a besoin. Je crois qu'il est aussi critique que nous étudions les progrès de génération de revenus, qu'on donne la puissance aux femmes, le pouvoir aux femmes de devenir formées, éduquées, qu'elles deviennent des professionnelles. C'est pas simplement, c'est pas toutes les personnes qui ont besoin d'amélioration, mais que des femmes qui ne font que du petit travail. Je suis jeune. J'étudie. Je fais mon baccalauréat en commerce. Je veux faire plus pour moi-même. Alors, construire ses habilités, de construire ses talents, ou plutôt que se concentrer simplement sur des petits projets, parce que ce n'est pas simplement le 100 run que j'ai fait ce mois-ci, mais aussi ce que ma vie sera dans les prochaines décennies. Il est important que les femmes et voir aussi tout cet exercice de prodiguer des soins. On n'est pas là seulement de traiter du sida, quelque chose a mal fonctionné dans notre famille. Parce qu'on prend la responsabilité, on se réveille pour prendre la responsabilité d'une façon ou d'une autre, qu'on ait la formation ou non. C'est important que nous soyons formés sur le sida et à savoir comment nous avons l'intention de faire avec ça, si ça arrivait dans ma famille. Alors pour moi, c'est d'être préparé parce que la responsabilité va vous arriver d'une façon ou de l'autre. Alors formons-nous et prenons toute la formation afin que lorsque les choses vont bien dans la famille et ne pas attendre que lorsque les choses ne fonctionnent plus du tout. Docteur Sadek, peut-être avons-nous le temps pour deux ou trois questions d'autres. Marie Simonen, je crois, m'excuse la prononciation du nom de UNFPA. Il y a une femme, une maîtresse contrôlée par les femmes, le condom pour les femmes. Comment pouvons-nous avoir plus d'appui pour avoir accès au condom féminin? Je suis entièrement d'accord avec ça dans la plupart des patients. Le condom pour les femmes n'est absolument pas connu. C'est la faute, évidemment, des programmes de soins de santé de ne pas disséminer l'information pour le condom des femmes. En Afrique, où les condoms féminins sont distribués, ils ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas donnés en grand nombre, en assez grand nombre. Et ensuite, il y a le prix, évidemment, mais le prix va diminuer une fois qu'ils seront construits en grande quantité. Et alors, c'est une méthode. Ce n'est pas toujours informé, mais ce serait aussi dans certaines des assises sont pas acceptées par les hommes ou par les femmes. Les femmes les aiment pas. Alors, nous avons besoin aussi de le pousser. Mais je suis d'accord. Un autre point pour la personne qui a posé la question, comment intégrer les programmes de santé dans la reproductivité. Il y avait un programme de planification des familles. Ensuite, les programmes de VIH, SIDA, qui m'informaient qu'ils n'avaient pas de condom. Alors, je leur ai dit, mais coudonc, les condoms viennent d'autres programmes. Mais ça m'a appris, à partir du tout début, que le ministre de la Santé signe un projet de loi avec le choix d'acheter 10 millions de condoms avec le programme de VIH et SIDA, parce que les deux programmes n'étaient pas intégrés.
Il y a de nombreux messages communs dans l'autonomie, les programmes d'autonomie sexuelle et reproductive, la distribution de condoms et de préservatifs est très important. Nous pouvons mieux utiliser nos ressources que nous le faisons aujourd'hui. Message important, donc nous allons conclure, mais je veux que tous nos experts puissent dire un dernier mot à l'auditoire à propos de votre ordre du jour pour le futur. J'aimerais demander à toutes les femmes du monde de prendre en charge une jeune personne, de l'éduquer, de donner des conseils sur le caractère sérieux de cette maladie. Je sais que ce qui se passe, les carences, c'est un problème mondial et il faut toucher les jeunes, il faut les éduquer, les surveiller. Il y a de nombreuses forces aux États-Unis et au niveau mondial qui travaillent contre cette volonté. Je veux que vous preniez une personne sous votre aile, l'éduquer, la nourrir, l'aimer et la surveiller et la former. Mon ordre du jour serait que dans mon travail de défense et de promotion comme chef de file politique, je dois travailler plus fort pour traiter les questions d'habilitation des femmes plus en centre et pour que les groupes d'activistes à l'intérieur du pays soient plus engagés pour traiter les questions à traiter. Prenons en charge une nouvelle technologie, il faut que ces activistes soient préparés et prêts à appliquer de la pression sur le gouvernement pour mettre en place les changements politiques nécessaires. Nous avons beaucoup à faire, bien sûr. J'espère qu'un grand nombre d'entre vous, dans tout, et j'espère que vous allez m'aider à faire passer le message pour chaque pays et de façon spécifique. Je veux simplement dire, il est temps pour les femmes jeunes et plus âgées de combattre la marée du VIH-SIDA et d'arrêter de se prendre, de se considérer comme des victimes et d'avancer. Nous avons du pouvoir, c'est à nous de nous lever. Il est temps pour nous, pour ne plus à continuer à laisser le contrôle de nos vies dans les mains des autres. Il faut que nous luttions pour notre survie, combattons pour l'avenir de nos enfants, combattons pour nos vies et pour vivre comme nous le voulons, comme nous le choisissons. Et Melinda, qu'est-ce que tu penses de l'ordre du jour pour l'avenir? Nous allons, il faut engager les jeunes gens, les hommes et femmes. Si nous revenons, si nous pouvons revenir dans 10 ans, et si nous n'avons pas eu ces microbicides, si nous n'avons pas eu les médicaments de prévention, cela va être un véritable crime. Nous devons vraiment enrayer cette épidémie. Si vous êtes un scientifique, un chercheur, un activiste, un partisan, essayez de pousser tous ces essais cliniques vers l'avant. Faites leur promotion pour enrayer cette épidémie. Merci à tous les experts, conférenciers. Merci à vous quatre. Nous voulons aussi remercier Judy Woodruff pour son excellent travail d'animatrice. Merci.